Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le gouvernement souminois est enfin connu. Il est formé de 54 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. C'est après une longue attente la nuit que l'ordonnance présidentielle nommant les membres du nouveau gouvernement a été lue sur les antennes de la RTNC aux 6 heures de ce matin. C'est l'objet donc de l'émission de ce soir. Et nous recevons dans cette émission M. Tipson Idumbo. Il est cadre de l'UDPS, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Il est porte-parole du gouvernement provincial Sud Kivu et actuellement il assure l'intérim du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Bonsoir M. le ministre Tipson Idumbo.
Bonsoir, bonsoir Guy Maté. Je salue tous les auditeurs de Radio Capi.
Nous avons également Amos Bissimouan qui est membre de la société civile, membre du mouvement citoyen Observatoire d'action parlementaire en RDC. Bonsoir Monsieur Amos Bissimouan.
Bonsoir cher Guy Maté. Je profite de ce micro de la radio Capi pour saluer de nombreuses et nombreux auditeurs qui sont en train de nous suivre. Je salue en l'occurrence tous les militants du mouvement citoyen à travers la République et qui se battent pour le vrai changement au pays.
Nous avons également M. Ignace Mopira, il est analyste politique. Bonsoir M. Ignace Mopira.
Bonsoir Guy Maté, je salue également les auditeurs de Radio Okapi et je vous remercie pour cette invitation.
Merci, bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Comme vous savez, le gouvernement souminois est connu, il est formé de 54 membres et après une si longue attente, la nuit, c'est finalement aux petites heures du matin que l'ordonnance présidentielle nommant les membres du nouveau gouvernement a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. On écoute ces reportages et des Pélé équipés la Mondo.
Pour les vice-premiers ministres et ministres, ils sont au total 6. Intérieur, Jacquemin Chabani, Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bimbagombo, Défense nationale, Guy Kabombo, Économie nationale, Daniel Moukoko Samba, Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Plan, Guylain Niembo. Ministre d'État et ministre, ils sont 10. Agriculture, Grégoire Moutonde, Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayiwamba, Éducation nationale, Raissa Palou-Dinanga, et Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, Infrastructure et Travaux Publics, Alexis Guissaro, Budget, Aimé Bogi, Affaires foncières, Acacia Bandoubola, Développement rural, Mouyindo Nzangi, Aménagement du territoire, Guy Luando, Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba, Ministre tout court, ils sont 24, Finance, Doudou Famba, Industrie et Développement des PME, Louis Kabamba, Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, Mine, Kizito Kapinga, Hydrocarbures, Aimé Molendo, Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, Urbanisme et Habitat, Crispin Bandou, Droits humains, Chantal Chambou, Santé publique, Samuel Roger Kamba Moulamba, Enseignement supérieur et universitaire, Safi Sombo, Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, Poste, Télécommunications et numérique, Augustin Kebasa Maliba, Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, Affaires sociales, Nathalie Moulanza, Commerce extérieur, Julien Paloukou, Intégration régionale, Didier Manzenga, Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.
Merci à vous, Pélé Kipela Mondo. Tipson Idumbo, vous êtes cadre de l'UDPS, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Actuellement, vous assurez l'intérim du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Quelle est votre réaction après la publication du gouvernement souminois?
Monsieur Guy Maté, ma réaction est simple. Nous saluons finalement la sortie de ce gouvernement qui a été attendu pendant longtemps, ne nous voilons pas la face, mais enfin le gouvernement est là. Nous constatons que sa taille est presque comme celle qui venait d'être remplacée, tant il est vrai que celui-là comptait 57 membres, celui-ci en compte 54, donc la différence c'est de 3 membres. La taille est toujours grande, hein, comme on l'a signifié l'autre fois. Mais cela, je pense, est dit aussi à la taille de la plateforme l'Union Sacrée. Monsieur Guy Maté, le système électoral dans notre pays, qui est le système proportionnel à prix forest, prédispose notre État à avoir beaucoup de partis politiques qui peuvent avoir des députés. Et donc, ça fait qu'aucun des partis n'est capable à lui seul de réunir la majorité parlementaire. On a eu des grands partis dans notre pays qui n'ont pas pu obtenir la majorité parlementaire. Et face à cette situation, on est contraint de recourir à des coalitions, des mariages parfois contre nature. Vous n'êtes pas sans savoir, Guy Maté, que dans notre pays, l'opposition, c'est comme l'enfer. Les politiques congolais n'aiment pas rester dans l'opposition. Et ça relance le débat sur la transhumance politique. On suit là où le pouvoir va. Et cette situation ne pouvait pas faciliter la tâche. Nous avons pas moins de 900 partis politiques au Congo, sans prendre en compte d'autres qui sont en gestation. Et nous disons toujours qu'il n'y a pas de combat d'idées en République démocratique du Congo, parce qu'on n'a pas 900 idéologies. Et dans la plupart, c'est des partis qui ont pour idéologie la social-démocratie. Pourquoi tous ces sociaux-démocrates ne se mettraient-ils pas ensemble, parce que défendant la même idéologie, pour créer une seule formation politique? Donc les problèmes ne se situent pas au niveau des idées, les problèmes se situent au niveau des gestions ou de l'application de l'idéologie au nom de laquelle on reste dans un parti politique.
Voilà, vous parlez, vous parlez de cette question de la taille du gouvernement qui n'a pas été réduite, n'est-ce pas, comme on l'a pensé.
Oui.
Le gouvernement est passé de 57 membres à 54.
Oui.
Et vous essayez de justifier cela par la taille de la plateforme Union Sacrée de la Nation.
Oui.
Est-ce que vous pensez que la taille de la plateforme doit nécessairement conditionner la taille du gouvernement?
Naturellement, parce que le gouvernement est le reflet des rapports de force dans une assemblée. Dès lors que la plateforme, nous avons une méga plateforme politique, il est normal que cela. Et si le gouvernement a tardé à sortir, c'est parce qu'effectivement il y avait des tractations. Des tractations chez chaque parti, qui a des députés, qui a trois, qui a quatre, qui voulaient aussi avoir un membre au sein du gouvernement. Donc si à un seul parti politique, et je voudrais parler de mon parti IDPS, à lui seul, était capable de réunir la majorité parlementaire, je ne pense pas que le gouvernement aurait la taille qu'il a aujourd'hui. Mais on cherche à satisfaire tout le monde, c'est chacun qui arrive, moi j'ai eu trois députés nationaux, j'en ai eu quatre, il y a aussi des ministères qu'on donne par solidarité, voilà là où nous en sommes. Si vous suivez les annonces qui avaient précédé la sortie de ce gouvernement, on s'attendait à moins que ça. Nous on pensait peut-être que la taille du gouvernement sera de 30 ministres ou 35, mais on a tenté, la machine était lourde à manœuvrer, au point que nous sommes presque à la même taille que le gouvernement passé.
Madame la Première ministre était consciente, n'est-ce pas, de cet aspect des choses, mais cela ne l'a pas empêché à promettre, n'est-ce pas, à la population de se battre pour, n'est-ce pas, réduire considérablement la taille du gouvernement afin de parvenir à la réduction, n'est-ce pas, du train de vie des institutions, alors qu'elle était au courant de cette réalité.
Bon, il y en a aussi qui pensent que, vu la taille aussi du pays, un gouvernement de 54 n'est pas aussi grand qu'on le croirait. Mais c'est pas la taille aussi qui fait qu'on ne puisse pas diminuer les trains de vie. Les trains de vie, c'est bien sûr que la taille jouerait, mais aussi c'est que si un ministre touche 10 000 dollars, ou 15 000, on peut diminuer du traitement d'un ministre et la différence pourra servir pour autre chose ou améliorer le vécu quotidien de la population.
Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que la population a été flouée
étant donné que la première ministre, n'est-ce pas, lorsque elle était en train de consulter les leaders des partis politiques, avait notamment dit qu'elle mettrait en place un gouvernement des technocrates plutôt. Mais lorsque vous voyez le gouvernement qui a été publié aujourd'hui, ce n'est pas un gouvernement des technocrates. On dit que la population a été flouée. Comment vous réagissez?
Merci beaucoup, Guy Maté. Encore faut-il savoir un technocrate c'est qui? Nous avons quand même certains ministres qui ont été reconduits, qui ont su faire preuve de ce dont ils étaient capables. Bon, les autres ministres qui ont été nommés, en tout cas, il y en a que nous ne connaissons pas. Alors nous ne pouvons pas en bleu dire qu'ils ne sont pas technocrates parce que tout simplement nous ne les connaissons pas. Nous ne sommes pas obligés de connaître les 100 millions de Congolais. Ceux qui ont été nommés, ils ont été nommés sur base d'un critère. Et nous voulons les voir à l'œuvre, messieurs les journalistes. Ce n'est pas de leur prêter des intentions avant qu'ils ne travaillent. Moi, j'apprécie ce gouvernement parce qu'il y a des anciens qui vont pouvoir capaciter aussi les nouveaux qui n'ont jamais été membres du gouvernement. Mais il y a beaucoup de nouveaux qui vont apporter leur expérience. Nous avons connu des gens qui étaient devenus presque domiciliés dans les gouvernements. Ils n'avaient plus rien à amener comme innovation, comme expertise. Tant il est vrai qu'ils auraient déjà tout donné. Vous êtes dans 3-4 gouvernements, vous n'avez plus d'innovation. Nous voyons les nouveaux qui arrivent, nous attendons qu'ils apportent aussi leurs innovations. Donc la population n'a pas été flouée. Nous voulons que ce gouvernement se mette vite au travail et il sera évalué sur base des résultats qu'il aura donnés.
Merci. Amos Bissimwa, membre du mouvement citoyen Observatoire d'action parlementaire en RDC. Et on vous a suivi, hein. Vous avez toujours souhaité la publication rapide du gouvernement, compte tenu, n'est-ce pas, des défis qu'il y a à relever dans ces pays. Maintenant que nous avons le gouvernement souminois, est-ce que vous êtes satisfait, vous, à la société civile?
Merci pour la parole donnée. Dire que nous sommes satisfaits, je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui est vrai, en fait, le gouvernement trop attendu, plus de 6 mois après les élections générales, au pays est là. Et dire que je suis satisfait, je ne saurais pas justement le dire tel que vous le dites. Et peut-être beaucoup d'autres Congolais ne le diront pas de cette même manière.
Pourquoi vous n'êtes pas satisfait?
C'est là que je vais. Mon constat, c'est quoi, au fait, par rapport à la sortie de ce gouvernement? Je vais d'abord à la question de la taille. Je tiens à vous dire, Guy Maté, que ce gouvernement, non seulement il est éléphantesque, mais aussi il est tellement pléthorique. Le gouvernement sortant était constitué de 57 membres. L'actuel sort avec 54 membres. Beaucoup de Congolais ont eu à crier cette taille du gouvernement, compte tenu non seulement de la misère au sein de laquelle vit l'ensemble du peuple congolais, mais aussi nous avons eu à décrier les trains de vie des institutions. Nous présenter encore un gouvernement de 54 membres, je pense que là, on n'a rien changé. Vous avez à le dire, la première ministre Judith Toluka, elle-même a eu à dire, je vais me battre pour réduire la taille du gouvernement. Mais nous sommes surpris qu'on nous présente encore un gouvernement de 54 membres. Et là, directement, je vais vers le budget national du pays. La population risque encore de ne rien gagner par rapport à ce que nous attendions de ce gouvernement. Et je pense que même le gouvernement contredit les propos du chef de l'État. Je l'ai suivi à maintes reprises lui-même dire « on va se battre pour réduire la taille du gouvernement pour que les membres qui seront là soient directement au travail et voir comment » changer les conditions de vie du peuple congolais. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je venais de suivre l'homme du pouvoir, Tipson Idumbo, qui a évoqué la superficie du pays.
Le ministre Tipson Idumbo.
Tout à fait, son Excellence Tipson Idumbo, qui venait d'évoquer la superficie du pays, que c'est elle qui pousserait à nos acteurs politiques de créer beaucoup de partis politiques, plus de 900 partis. Moi, je pense que nos acteurs politiques ne les font pas par rapport à la superficie du pays, mais ils le font parce qu'ils prennent la politique comme du commerce. Et ça, c'est un danger pour notre pays. Parce que si nous essayons de comparer la superficie des États-Unis et la superficie de la République démocratique du Congo, ça n'a pas de rapport. Mais il faut voir le nombre du gouvernement aux États-Unis et ce que les gens nommés dans leur gouvernement font pour leurs administrés, contrairement à ce que nous vivons en RDC. Là, je ne suis pas d'accord avec lui, je le comprends, parce qu'il ne peut que défendre ce que le régime en place a fait, contrairement aux attentes de la population. Mais lui-même sait que ce n'est pas la superficie qui pousse à notre pays d'avoir plus de 50 membres au sein de son gouvernement. Deuxième analyse par rapport à ce que je devais dire, la représentativité de la femme. Je constate que on est à plus de 30% pour ce qui est des femmes qui ont été nommées dans ce gouvernement. Mais je me dis, est-ce que ces femmes ont été choisies sur base de leur méritocratie ou il y aurait eu trafic d'influence? Parce que moi, je n'ai jamais dit que la méritocratie doit être évaluée sur base du sexe. La réponse dit non. C'est plutôt qui mérite, homme ou femme, pour répondre valablement aux attentes de la population congolaise. Mais dire qu'il fallait commettre n'importe quelle femme, tout simplement parce que les femmes, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai eu même à le dire pour ce qui est de la nomination de la première ministre. Parce que moi, j'ai dit, elle n'était pas à sa première fonction au niveau de la République. Elle était ministre du plan. Mais est-ce qu'on peut... J'ai eu à poser maintes fois des questions. Est-ce que nous pouvons savoir son bilan? Au niveau du ministère du plan, rien n'a été donné. On a dit tout simplement, c'est une femme, attendons voir ce qu'elle va faire. Et j'ai dit, peut-être c'était une stratégie du régime en place d'effrouer les non-avertis pour qu'ils pensent que comme on vient de nommer une femme, c'est-à-dire il y a un changement auquel nous nous attendons. Parce qu'avant de la nommer, il fallait d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'elle a fait état au gouvernement comme ministre du plan. Troisième analyse que j'ai faite, c'est par rapport à la qualité de ministre nommé. Sur base de quoi on a nommé ce ministre? Moi, à mon niveau, et l'analyse que j'ai faite, je pense qu'on les a nommés sur base des affinités et des acquaintances. Et là, je peux vous dire, je n'ai pas peur de le dire.
N'est-ce pas un procès d'intention?
Ce n'est pas un procès d'intention, parce que si vous essayez de faire une analyse, vous allez comprendre avec beaucoup de Congolais qui vous suivent que beaucoup de ces ministres ont été nommés, surtout ceux qui ont été repris au moment où ils étaient dans le gouvernement sortant, sur base des relations familiales, sur base des relations amicales, pourquoi pas même sur base du copinage. Ça, je dis sans peur d'être contredit. Parce que je ne comprends pas, à mon niveau, que des ministres qui ont échoué dans des gouvernements sortants que nous avons connus dans notre pays, et qui n'ont aucun bilan, qu'ils soient encore repris dans ce même gouvernement, c'est comme qui dirait des joueurs qui ont amené une équipe à être disqualifiée, qu'on les renomme encore ou qu'ils soient encore alignés et attendre la victoire auprès de cette équipe. C'est réfléchir autrement, c'est réfléchir gauchement. Moi, si j'essaie d'analyser tous ces ministres-là qui ont été reconduits, à titre d'exemple pour ce qui est de ma province, le Sud Kivu, il y a le ministre du budget Sorta qui est reconduit toujours au même ministère, mais bon, pour ne pas les citer. Je voudrais savoir le bilan par rapport à ce que le peuple attendait, parce que le ministère du budget n'est pas n'importe quel ministère. Au niveau de la République, et plus particulièrement pour la province de Sud-Kivu, à part certaines réalisations liées à l'organisation des élections, il y a le deuxième, Alexis Gissaro, ministre des Travaux publics. Que ce soit à travers la République, que ce soit au Sud-Kivu, ma province, il n'y a même pas un centimètre de sa réalisation ou un centimètre à son actif. Il faut voir nos routes pour faire ouvrir. Nous passons par le Rwanda, nous passons par le Burundi avec toutes les humiliations que subissent les Congolais. Je prends le troisième, Gilbert Kabanda, ministre d'abord, ministre de la Défense et puis ministre de la Recherche scientifique. Je tiens à vous informer que à Luiro, on venait de connaître une grève de 2 mois parce que les agents réclamaient les bonnes conditions de travail. Au moment où c'est bien lui le ministre de la Recherche scientifique. La quatrième, Chantal Chambou, au ministère des Droits humains. Trop peu connu aussi de Kivu, et je mets quiconque au défi Mais on voit elle est nommée, on ne sait pas sur base de quels critères elle a été nommée. Voilà
ce
pourquoi.
Ce qui importe pour vous, c'est que la personne soit connue. C'est ce qui importe pour vous. C'est ça les
critères. Pas seulement qu'elle soit connue, mais qu'on sache le bilan ou ce qu'elle a, elle a eu à faire dans le passé.
Okay.
Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire au micro ici, mais je tiens à vous dire, Guy Maté, que c'est le peuple congolais qui vient encore d'être floué. Tout simplement parce que ceux qui les ont nommés, ou les nommés, ceux qui viennent d'être nommés, c'est sur base des relations familiales, des relations amicales, mais aussi du copinage.
Merci
et c'est la République qui perd encore.
Merci à Amos Bissimwa. Ignace Mopira, vous êtes analyste politique. Et comment vous analysez la sortie de ces nouveaux gouvernements, les gouvernements tant attendus de Madame Souminois?
Merci, je salue. Vous avez dit la sortie. Sortie, c'est-à-dire c'est sorti. Je ne sais pas, sorti d'où, de nulle part, ou sorti quand même. Mais au forceps, c'est-à-dire difficilement. Nous avons attendu la publication de cette liste de ministres pendant longtemps. Et les gens commençaient à se décourager parce que le pays a quand même besoin d'être administré. Il n'est pas agréable de se rendre compte que cet espace gouvernement fonctionne comme un drone. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas de pilote dans l'avion et que c'est manipulé quelque part. Il y a quelqu'un qui tient la manette et qui commande tout. La répartition des responsabilités pour gérer la chose publique est consacrée par la Constitution. Et les charges de l'État qui reviennent au gouvernement sont connues. Nous avons un chef de l'État, un président de la République chef de l'État, un premier ministre chef du gouvernement. C'est le gouvernement qui conduit la politique du pays. Elle peut être dictée par le président de la République qui a annoncé les 6 axes de sa vision lors de sa... dans son discours d'investiture, mais il revient au gouvernement de prendre tout cela, de conduire tout cela, et c'est d'ailleurs le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas jeter le bébé, l'eau sale du bassin, le savon et le bassin par-dessus bord, on ne peut pas balancer tout ça par-dessus bord, on prendra ce qui est prenable dans tout cet attelage-là, parce qu'il y a à boire et à manger. J'ai entendu Amos Bissimwa donner les critères supposés ayant présidé à la désignation de ces ministres. Moi, j'ai suivi la première ministre, s'est fixée sur deux critères. Elle avait parlé de la compétence. Elle avait parlé de la probité morale. Je souhaite que ces qualités-là se retrouvent dans les chefs de ces compatriotes qui viennent d'être désignés pour exercer ces fonctions-là. Je souhaite qu'on retrouve la compétence et la probité morale. Ceux qui étaient là, ceux qui ont été reconduits, au risque de faire un jugement moral, je ne veux pas dire que j'ai peine à chercher à retrouver ces qualités. Chez certains, il y en a. Chez certains d'autres, il y en a moins. Et parce que à 60% ou 70%, c'est des personnalités que moi, je ne maîtrise pas. Peut-être que c'est ça leur chance, c'est parce que c'est des personnalités de nouveaux visages, de nouveaux visages.
Est-ce que le nouveau visage est une garantie d'efficacité?
Pas du tout, non. Moi, je crains justement les gens que je ne connais pas, dont je ne connais ni le profil ni le passé. Il n'est pas dit qu'un tout nouveau ne peut pas faire preuve de ses compétences. On va les découvrir. Mais les anciens qui ont été reconduits, est-ce qu'ils ne vont pas contaminer les nouveaux? Parce qu'on a dit ils vont les aider. Mais est-ce qu'on va parler de contagion? Parce qu'on a quand même fustigé certaines manières de faire du gouvernement qui vient de partir. Nous avons été habitués à des choses telles que les détournements spectaculaires des deniers publics, des projets qui démarrent mais qui n'avancent pas. Les premières pierres qu'on pose par-ci, par-là, mais dont on ne voit pas l'avenir. Qu'à cela ne tienne, le peuple congolais attend que ce gouvernement puisse répondre à des préoccupations telles que
la sécurité.
Et ça, c'est une préoccupation majeure, la sécurité. Pas seulement à l'Est, mais dans la ville de Kinshasa, la ville est invivable. Nous sommes à Bukavu ici, on peut encore dormir. Il n'y a pas encore de koulouna ici à Bukavu. Hein? Il y a quelques enfants de la rue qui sèment la terreur parfois, mais les koulouna, gens à Kinshasa, on n'en a pas ici à Bukavu. On peut dormir. Les coups de feu, les bombes qui tombent sur les marchés, dans les camps de réfugiés, il n'y en a pas encore ici à Bukavu. Au Nord Kivu, c'est une catastrophe. Et donc, les déplacés de guerre, les gens qui doivent rentrer à Bunagana, nous-mêmes qui devons... le pays qui doit recouvrer son intégrité, c'est une priorité, la priorité des priorités. Oui, mais comment... Il y a la stabilité, la priorité, la stabilité, ça va ensemble. Mm-hmm. La cohésion sociale, on peut négliger cela, mais le tissu social est souvent déchiré, déchiqueté par des difficultés, absence de compromis chez la plupart de nos responsables politiques. Et ce déchirement-là, il faut le gérer. Et ça crée des remords. Toutes sortes de remords, oui, je veux dire. Et la situation sociale elle-même, ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde encore ça? Est-ce qu'on jette encore un coup d'œil dans le panier de la ménagère? Le coût de vie à Kinshasa et partout ailleurs, les salaires des fonctionnaires, etc. J'ai une autre crainte. Il y a 57 membres, je crois, si je ne me trompe pas, 57 membres dans ce gouvernement-là. Pendant la transition, en 54 membres, oui, exactement. En 2003, quand on démarrait la transition, il y avait un gouvernement de 64 membres. Et on appelait ça répartition équitable et équilibrée des postes. Répartition, c'est-à-dire distribution, un peu comme si on récompensait les efforts fournis par X et Y. Si ces compatriotes ont été élevés à ce rang parce qu'ils ont beaucoup travaillé et ils méritent une récompense, ils risquent de croire que la charge ministérielle, ce n'est qu'une récompense. Alors on trouve des gens dans la rue en train de danser, en train de jouir, en train de voyager, et qui ne savent pas que c'est un travail, c'est une charge, c'est un poids qu'ils doivent porter. Et ça a traîné, ça a trop traîné, et je crois que prochainement, on n'allons plus assister à ce genre d'accouchement au forceps. Et que les acteurs politiques, en commençant par le président de la République, les parlementaires, la majorité, comment on appelle ça, le présidium, etc., il faut qu'ils soient en mesure de trouver rapidement et chaque fois un compromis. Parce que les théoriciens disent que le compromis, c'est l'école supérieure de la démocratie. La majorité n'est pas un principe démocratique. L'unanimité n'est pas un principe démocratique. La majorité, c'est consacré par la Constitution, mais elle n'est pas, une panacée. Ce n'est pas parce que vous avez une majorité que vous maîtrisez tout, que vous devez tout conduire. Encore faut-il faire appel à ce que Mme Soumino a dit, la compétence, la probité morale, le sens des responsabilités. Il faut rechercher et toujours le consensus et le compromis. C'est ce qui a manqué, c'est ce qui a fait que le gouvernement puisse traîner. Il y en a qui voulaient absolument que ce soit leur nom qui réapparaisse et qui réapparaisse toujours. Et si ce n'est pas eux, il faut que ce soit la femme, l'enfant et bientôt les arrière-petits-enfants.
Et comment vous expliquez, comment vous analysez, hein, vous en tant qu'analyste politique, les départs des ministres comme Jean-Pierre Bemba, comme Christophe Lutundula, quand on sait que c'est au moment, n'est-ce pas, où on est en train de constater une certaine montée en puissance des FARDC, et c'est au moment où on constate, n'est-ce pas, que la diplomatie congolaise est en train de porter ses fruits avec toutes ces pressions que la communauté internationale est en train d'exercer au Rwanda pour qu'il retire ses troupes du territoire congolais. Et c'est à ce moment-là que le ministre de la Défense part et le ministre des Affaires étrangères part. Comment vous analysez ça? Ça peut être lié à quoi?
Je crois qu'ils ont fait leur temps. Je crois que le ministre Jean-Pierre Bemba a fait son temps. Quand le ministre Jean-Pierre Bemba part, ce n'est pas la Défense qui part. C'est la personne qui part. Mais l'armée est toujours là.
Donc là, je parle du départ des Bemba, c'est du ministère de la Défense.
Oui, voilà. J'ai dit, d'autres peuvent faire peut-être mieux que lui. Également, disons, même chose au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Christophe Lutundula a fait son temps. Peut-être que dans son carquois, il n'y a plus de flèches adaptées au contexte actuel. Il a fait son temps, et ce qu'il a fait, c'est un plus pour la République. D'autres vont poursuivre la marche, ils vont apporter de nouveautés, d'autres inspirations pour nous proposer une autre dynamique, pour une autre diplomatie, peut-être de pointe, mieux que celle qu'on a connue. On ne peut que les remercier. Je crois que le ministre Bemba, il est repris au gouvernement, je pense. Hein.
Il a été, oui, il est ministre des Transports et Voies de Communication. Il a été repris.
La rotation, c'est aussi une bonne chose. Hein. La rotation, ce n'est pas le propre du Congo seulement. En France et ailleurs, on peut changer le gouvernement. Un ministre des Finances peut se retrouver en train de diriger le sport. Un ministre du Budget peut être à l'économie. Un ministre de la Santé peut se charger de l'environnement. Et donc... D'ailleurs, quand on a trop traîné à un poste, on épuise les flèches et parfois on n'est plus inspiré. Et de temps en temps, il faut faire la rotation, la circulation des élites pour que le nouveau apporte de nouvelles stratégies.
Merci.
Pour que le pays marche.
Merci, Monsieur Tipson Idumbo. Vous allez, n'est-ce pas, réagir à l'analyse de Monsieur Moupira et de Monsieur Amos Bissimoua. Et nous avons dit ici que la plupart de ceux qui sont là, c'est de nouveaux visages, et que nous avons souligné le fait que les nouveaux visages n'est pas garanti, n'est-ce pas, de l'efficacité. Mais à votre avis, comment Madame Souminoua doit, n'est-ce pas, utiliser ces nouveaux venus pour obtenir des résultats escomptés?
Merci beaucoup, Guy Maté. Je crois que nous devons savoir le système politique qui est le nôtre. Aucun parti n'ayant obtenu la majorité parlementaire, je le disais encore tantôt, on a recouru à des coalitions. Et qu'est-ce qui se passe dans une coalition? Le parti propose des noms. Madame la Première Ministre n'est pas obligée de connaître toutes les personnalités qui sont proposées par le parti politique, auquel d'ailleurs elle n'appartient pas elle-même. Elle est d'élite épaisse. C'est pas elle qui va dicter à l'AFDC, par exemple, les personnes à proposer.
Justement, donc, comment peut-elle utiliser ces personnes qu'elle ne connaît pas? Comment l'utiliser pour qu'elle obtienne les résultats, n'est-ce pas, attendus?
Bon, M. Guy Maté, dès qu'on est nommé, comme ça a été le cas ce matin, on n'appartient plus à son parti politique. On ne vient plus faire la politique de son propre parti au sein du gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que de tous les ministres, de tous les membres du gouvernement ou de l'exécutif, c'est lui qui a la légitimité la plus large, c'est le président de la République. Tant il est vrai que la circonscription électorale, pour lui, c'est la République démocratique du Congo. Et donc, lorsque on compose un gouvernement, c'est toujours une étape très très difficile pour un système politique qui est le nôtre. On amène des noms, le président voudrait savoir avec qui il va matérialiser son programme d'action, parce que c'est lui qui a les contrats avec le souverain primaire, les Congolais, qui l'ont élu à plus de 60%. Et donc, il aimerait savoir avec qui il pourra matérialiser son programme d'action. C'est pourquoi il aurait été mieux de laisser un premier ministre ou un président dénommer le membre du gouvernement qu'il connaît. Il sait les contrôler, il connaît les affinités. Et là, je réponds à Amos Bissimoua, qui semble dire que les critères qui ont prévalu pour que tel ou tel autre soit retenu, c'est les relations amicales, la fraternité. Un peu de ça, oui. Parce qu'on doit partir avec quelqu'un qu'on connaît. On sait que tel peut m'être utile dans ceci ou dans cela. C'est avec celui-là qu'on part. Mais ici, il est vrai qu'avec la coalition, il y a des ministres qui sont venus dont le président n'a aucune idée, ni même la première ministre. Mais il fallait faire avec. Et je pense, entre autres, ce qui a fait que le gouvernement traîne à être publié, il y a tous ces aspects-là. Pour l'instant, parce que M. Amos a parlé de Guissaro, assemblée, évaluer les ministres qui ont été repris. M. Amos, vous n'avez pas mandat de la population. Le président de la République, c'est lui qui a le mandat.
Il n'a pas mandat de la population, il est dans la population, il observe.
Je dis ceci. En tout cas, le président de la République, ayant reçu le mandat du peuple congolais, il n'a pas intérêt qu'il échoue. Et donc, il va, autant que faire se peut, chercher à rencontrer les attentes de la population. Avec, évidemment, les ministres que les sociétaires politiques lui ont proposés. N'ayons pas peur des mots. Vous n'allez pas dire que tous ces ministres sont des lits de peste. Mais le président aurait voulu que tous ce soient des lits de peste. Mais ce n'est pas le cas. La réalité politique de notre pays ne l'ayant pas permis, le président est obligé de faire avec le ministre là que ces sociétaires politiques là lui ont proposé. Mais nous parlons, nous nous adressons à ces ministres pour leur dire, dès qu'ils sont nommés, ils ne devront plus répondre de leurs autorités morales. C'est là tout le problème. Et nous saluons d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas assez d'autorité morale dans ce gouvernement. Pourtant, elle s'est battue, en tout cas, elle s'est frottée les sourcils pour appartenir à ce gouvernement. Alors, nous voulons donner la chance. Et son Excellence Yassi Moupira a épinglé un certain nombre de problèmes face auxquels les Congolais se retrouvent aujourd'hui. Tant qu'il y aura des problèmes, la présence, l'existence d'un gouvernement sera toujours justifiée. Il y en a qui pensent que c'est quand il n'y aura plus de demandes sociales que le gouvernement ou l'État sera voué à la disparition. Or, même les pays à vieille démocratie reçoivent toujours des demandes sociales de leurs administrés. Et donc, l'État sera toujours là et les gouvernements seront toujours au rendez-vous. Qu'est-ce que je voudrais dire, Guy Maté? Nous ne vivons pas sur une autre planète. Le président de la République ne vient pas de la planète Mars. Il ne peut faire qu'avec les Congolais. Et les ministres qui ont été nommés ne sont pas moins Congolais. Peut-être que Amos aurait voulu qu'il soit aussi nommé ministre dans ce gouvernement.
Pourquoi
il
pas?
N'a qu'à attendre, oui, il est Congolais à part entière, mais il n'a qu'à attendre le moment venu. Et il doit travailler pour mériter cela.
Merci.
Vous ne pouvez pas croiser les bras et attendre la nomination. Il faut travailler, il faut entrer dans les formations politiques. Nous bataillons, nous tous. Et avoir maintenant l'espoir qu'un jour, on pourra être nommé ministre.
Merci.
Donc, nous accordons la chance à ces gouvernements. Le fait que nous ne soyons pas en mesure de connaître tout le monde, c'est un atout qu'il faut capitaliser. Nous étions habitués à tous ces caïmans-là, à tous ces faucons. Et maintenant, là, ils ne sont plus là. Donnons la chance aux nouveaux qui viennent, qui font leur entrée. Et ils sont nouveaux par rapport à quoi? Il y a aussi un débat. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il est nouveau pour vous. Mais pour les autres, ils peuvent avoir déjà assumé d'autres responsabilités qui ont milité à ce qu'ils soient retenus dans ces gouvernements.
Merci. Amos Bissimoua, peut-on parler d'un gouvernement débarrasser effectivement des autorités morales, comme on vient de le dire, Monsieur le ministre Tipson Idumbo?
Pas du tout. Je pense que c'est son analyse, mais si nous essayons d'analyser le gouvernement qui vient de sortir, il y a encore beaucoup d'autorités morales. Je prends Bemba. Bemba est autorité morale de son parti. Je prends
Guy Luando.
Il est autorité morale de son parti et beaucoup d'autres que je ne pourrais pas terminer à citer ici. Vous savez, et c'est ce que je suis en train de craindre, et nous l'avons déjà dit, Madame Judith Toulouka, et nous l'avons plusieurs fois répété, aura des difficultés de marge de manœuvre qu'elle n'aurait pas réellement. Parce qu'elle-même a eu à dire il n'y aura plus question d'autorité morale dans mon gouvernement. Et ça a été évoqué à plusieurs reprises. Elle a eu même à dire que non, elle ne va pas reprendre dans son gouvernement des gens qui ont été élus à la fois député provincial, député national, sénateur et aujourd'hui ministre. Mais nous les avons dans le même gouvernement.
Mais ça a été plutôt le souhait de la société civile.
Tout à fait. Et elle-même, dans ses propos, il y a des discours dans lesquels elle a tenu de tels propos. Mais si nous essayons de voir ce qui s'est fait, et c'est là que beaucoup de Congolais se disent, est-ce que la République appartient aujourd'hui à un club d'amis contre tous les peuples congolais? Et que ces gens prendraient les Congolais pour des idiots. Ça ne passe pas. Parce que nous tous,
nous
avons droit au chapitre
de la République. Est-ce que c'est des personnes qui constituent ce gouvernement ou les personnes qui vont améliorer la gouvernance du pays?
Une très bonne question. Des personnes prêtes à améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Et c'est là que j'ai rejoint ce qu'a évoqué Ignace Mupira, qui a parlé de la compétence et de la probité morale. Mais je donne seulement quelques cas. Le ministre Augustin Wikibasa, qui était au ministère des Postes et Télécommunications, de triste mémoire dans ce pays, avec sa question des rames, il a pillé presque tous les Congolais. Mais à la lire où évoluent les choses, et comme il vient d'être repris, est-ce qu'on n'est pas tenté de conclure qu'il y avait des complicités même avec la présidence? Parce qu'on ne s'attendait plus à sa présence dans notre gouvernement. Mais il vient d'être reconduit. Kibasa Maliba, qui a pillé tous les Congolais avec son rame? Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans un pays sérieux. Vous ne pouvez pas continuer à utiliser les mêmes méthodes et puis vous attendre aux résultats différents. C'est être malade.
Merci.
Comment reprendre le même gens qui ont mis la République à genoux, tout simplement parce qu'il y a acquaintance, il y a affinité, et puis vous dire ils viennent améliorer les conditions de vie du peuple congolais. C'est réfléchir gauchement. Moi, je pense à mon niveau. Si réellement les dirigeants qui sont là réfléchissaient peuple congolais, réfléchissaient la patrie, Ignace Mupira l'a dit, par rapport aux attentes du peuple congolais, ce qui se passe à l'Est. Nos compatriotes sont en train d'être égorgés comme des cobayes. Mais qui s'intéresse de cette situation? Personne, parce que la plupart de ceux qui nous gouvernent ont leurs priorités ailleurs. Et voilà comment le pays est à genoux aujourd'hui. Si du moins ils s'intéressaient de cette question, plus de 6 mois sans gouvernement, après l'élection générale, personne ne peut comprendre ça à part Gibson, qui peut défendre la médiocrité que tout le monde décrit au pays. Moi, je pense, si réellement,
il a rappelé qu'il y avait un gouvernement qui assurait les affaires courantes.
Quelle affaire courante? Il y a un gouvernement qui assume des affaires courantes à des limites. Il y a des décisions que quelqu'un qui assume les affaires courantes ne peut pas engager. Ce sont les textes qui les stipulent ainsi. Je ne sais pas Gibson, lui, sur quelle planète, s'il peut nous dire ça aux millions. Moi, je pense que le peuple congolais doit attendre longtemps et la République aura à changer quand nous aurons des animateurs des institutions qui aiment le pays et qui aiment le peuple congolais. Mais tant que nous aurons des dirigeants qui nous servent comme des mercenaires, je vous dis, chers journalistes, rien ne changera. Voilà pourquoi aujourd'hui, et je l'ai évoqué même dans mon speech, il y a certains citoyens au pays qui vous toucheraient 2 millions de dollars, 350 000 dollars, 300 000. Les ministres nationaux, si tout le monde se bat, plus de 50 000 dollars. Les députés, plus de 30 000 dollars. Et c'est là à part les avantages liés à leur poste. Mais les mêmes gens acceptent de donner à un militaire qui se bat au front, à un policier, à un enseignant, à un médecin et tout autre fonctionnaire de l'État, difficilement de 140 000 francs.
Espérons que le nouveau gouvernement
fasse les choses
différemment.
C'est de la sorcellerie à ciel ouvert. Merci. Et je pense que tant que nous aurons déjà comme Excellence Gibson Idumbo qui continue à voir du blanc là où tout le monde voit du noir, je pense que la République aura des difficultés à décoller.
Et vous voyez les choses comment?
Je le vois en tant que Congolais, et lui-même est allé dire, Amos ne représente pas la population, mais Amos vit avec la population, et Amos connaît la souffrance de cette population. Voilà pourquoi qu'ils me disent, on a construit la route, nous sommes tous aussi...
Lui, il est ministre, hein, et donc il connaît aussi la souffrance de la population.
Justement, oui, mais comme il fait partie du même régime qui met le pays à genoux, je ne le vois pas donner des propos contraires à la souffrance du peuple congolais.
Merci beaucoup.
Voilà pourquoi moi je voulais dire, il vit aussi le Kivu avec nous. Chez lui à Chabunda, un verre de sel qui coûte
200 francs à Bukavu, ça coûte plus de 2000 francs à Chabund. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Mais il continue. Je pense que les gens de chez lui l'écoutent.
C'est pourquoi il faut travailler.
C'est pourquoi j'ai dit.
Il faut travailler.
Il fallait.
On a un nouveau gouvernement.
Il fallait dans ce gouvernement.
On espère qu'il va
travailler. Il fallait dans ce gouvernement des gens qui aiment le pays et qui aiment le peuple congolais.
Ah, comment vous savez que ceux qui sont là n'aiment pas le pays?
Je venais de parler. Je venais de parler de Kibasa.
Ah,
avec son escroquerie de l'âme. Il a escroqué tous les Congolais, mais il est repris.
Merci beaucoup. Merci,
juste pour les intérêts de ceux-là qui l'ont nommé.
Monsieur Ignace
Mpira, mais pas pour les intérêts du peuple congolais.
Monsieur Ignace Mpira, on a évoqué le fait qu'il n'y a pas assez d'autorité morale dans ce gouvernement. Mais vous ne pensez pas que les autorités morales, c'est plutôt elles qui vont gérer ce gouvernement à travers les personnes qu'elles ont proposées?
Bien entendu, les personnalités qui ont été nommées, élevées au rang de ministres, ne sortent pas de nulle part, ne sortent pas du néant. Les sources du pouvoir sont multiples et multiformes. On peut accéder au pouvoir parce que on a étudié avec XY en Belgique, au collège Al-Fadjiri, etc. On a joué dans une même équipe de football, on est du même quartier, on appartient au même Chirica, on est de la même église, etc. Donc les sources sont multiples. Et il y a aussi les partis politiques. C'est l'une des sources, disons, qui peut propulser quelqu'un au pouvoir. Mais cela n'est pas une malédiction. Appartenir à un groupe, appartenir à un parti politique n'est pas une malédiction. Même au sein des partis politiques les moins performants.
Mais c'est pas un problème lorsqu'on est proposé par des personnalités qui ont elles-mêmes souhaité être dans ce gouvernement-là.
Oui, mais là, c'est la personnalité.
Parce que quand on n'a pas été sélectionné, et donc ce qu'on voulait faire dans ce gouvernement-là, parce qu'on n'y est pas, on va le faire à travers la personne qu'on a envoyée.
Oui, c'est ça. On reste rattaché à l'idéologie ou aux idéaux de son parti politique, si le parti politique a des idéaux. On peut aussi rester attaché, malheureusement, attaché vraiment, lié et ligoté au bras de la personnalité que vous a propulsé, si vous n'avez pas de personnalité vous-même. Mais une autorité morale d'un parti politique qui trône sur un parti politique peut voir également le ministre qui l'a proposé jouer de ce qu'on appelle le droit à l'ingratitude. Et donc, à un moment donné, il peut lui dire « Monsieur, merci beaucoup, vous m'avez désigné pour exercer les fonctions de ministre des Finances, mais les exigences de ces ministères-là, de cette tâche-là, ne vont pas avec les pratiques auxquelles je suis habitué, auxquelles vous-même vous nous avez habitué. » Il ne le lui dira pas. Mais il va de manière furtive échapper, parce qu'il a aussi sa personnalité qui est mise en jeu. Je prends le cas de madame la première ministre Judith Suminwa. Elle va pas faire la figuration. Sinon, alors, elle est là pourquoi? Elle peut pas être une figurante. Elle doit marquer l'histoire. On ne revient pas deux fois à la primature. Donc, la chance que...
À part Kengo
la destinée,
qui est revenu des fois. Léon Kengo est revenu des fois à la primature.
C'est Mobutu qui a décidé. Il était seul à décider. Aujourd'hui, avec 910 partis politiques, avec une plateforme, une méga plateforme, comme disait son excellence Tipsoni Doumbo, l'Union Sacrée, je ne vois pas comment ils peuvent... Tout le monde n'est pas Papa Viamboso ou Kodia. Et tout le monde n'est pas Vital Kamerhe. Et donc, à la primature, Madame Judith Suminwa doit marquer d'un cachet spécial son passage là-bas. Elle a été désignée par le président de la République, bien entendu. Elle a le devoir de redevabilité vis-à-vis du parti politique et vis-à-vis du président de la République. Mais elle peut aussi se démarquer par sa propre personnalité et échapper à tout ce à quoi on nous a habitués. Est-ce que c'est le président de la République qui lui dit qu'elle doit détourner de l'argent? Est-ce qu'il y a une autorité morale qui dit à un ministre détourner 500 millions, 300 millions, etc.?
Et si c'est connu, je crois que l'autorité morale finira par se cacher. Si on découvre que c'est lui qui demande au ministre de détourner de l'argent. Donc il y a des choses que les ministres peuvent faire sans demander à leur autorité morale. Je donne souvent l'exemple d'un gouverneur de province qui ne va pas au bureau, par exemple, qui fait une année, il reçoit à la maison et au lieu d'aller au bureau, il va dans les fêtes de mariage ou dans les fêtes des anniversaires des bébés de 3 mois, etc. Est-ce que c'est l'autorité morale qui lui dit ne va pas au bureau? Et quand il va au bureau, s'il n'ouvre pas son signataire pour avoir la maîtrise des dossiers, est-ce que c'est l'autorité morale qui lui dit ne lis pas les dossiers, ne réponds pas aux lettres, ne construis pas ceci et cela? Parce qu'ils vont le faire également, et pour l'honneur du ministre, et pour l'honneur de la famille du ministre et des enfants du ministre, pour l'honneur de la République, pour l'honneur du parti politique et même pour l'honneur de l'autorité morale. Merci. Et donc tous sont embarqués, je crois, dans cet attelage et ils ont l'obligation des résultats.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission, nous allons conclure, hein, monsieur le ministre Tipson Idumbo. Et quelles sont les recommandations que vous pouvez, en guise de conclusion, les recommandations que vous pouvez formuler à l'endroit de madame la première ministre Souminwa, afin que d'ici 3 mois, 6 mois, lorsqu'on va évaluer l'action de son gouvernement, que les gens ne soient pas déçus?
Merci beaucoup, Guy Maté. Ce qui veut dire, c'est que à Kinshasa, il y a eu des fêtes à 5h, 6h du matin, et même maintenant. Mais c'est pas ça qui doit préoccuper les nominés. C'est le travail qui devra maintenant commencer. Nous aurons assez d'arguments à faire prévaloir devant nos contradicteurs quand eux auront bien travaillé. Vous êtes en train de suivre les critiques acerbes qui sont débités par les co-débatteurs sur ce plateau. Et donc il faudra bien que le moment venu, à partir des actions qui auront été réalisées, que nous ayons des arguments à présenter, nous ayons les bilans à amener devant le souverain primaire. À madame la première ministre, il ne faudrait pas qu'elle soit complaisante. Il y a beaucoup de défis qui l'attendent. Il y a la guerre, d'ailleurs, Excellence Ignace Mopira y est revenu. Il a fait la liste de presque tous les problèmes que nous connaissons. Ils sont nommés quand la MONUSCO est en train de faire ses valises. C'est aussi un défi. Le vide qui va être créé par l'absence de la MONUSCO, comment on en fait? Et donc, tout ça, ça repose sur ce gouvernement. Ce gouvernement n'aura pas d'excuses. Nous sommes au deuxième mandat. Le premier mandat, vous connaissez les turbulences politiques qui l'ont émaillé. Maintenant là, nous sommes au deuxième mandat avec plus ou moins une majorité parlementaire stable. Et l'air maintenant est au travail. Les Congolais attendent beaucoup de ce gouvernement. Donc, c'est le moment de se mettre au travail et de donner de l'espoir à ce peuple qui a trop attendu l'événement ou la mise à l'orbite de son développement.
Merci. Amos Bissimwa, vous allez aussi conclure. Hein. Les recommandations que vous pouvez formuler à l'endroit de la première ministre afin qu'elle améliore l'action du gouvernement et pour que, n'est-ce pas, les aspirations de la population soient rencontrées.
Justement, oui. Nos amis qui me parlent de plus de 900 partis politiques, je tiens à dire que il y a ce qui nous appelle l'union sacrée, chapeautée par les chefs de l'État, à moins qu'on nous dise que l'union sacrée c'est un troupeau sans berger. Là, je peux comprendre. Parce que le chef qui a une vision et des objectifs à atteindre, il doit des fois prendre des mesures courageuses pourvu qu'il atteigne ses objectifs en faveur de ses administrés. À madame Toulouka, si réellement elle aurait la marge de manœuvre, malheureusement, on nous dit que souvent elle reçoit même des injonctions venant de la première dame, de la mère du chef de l'État, Marthe. On se demande de devenir quelle institution dans ce pays. Nous nous attendons de...
Il ne faut pas citer les noms des personnes qui ne sont pas là.
Justement,
ils ne peuvent pas se défendre, n'est-ce pas, apporter leurs moyens de défense.
De la part de ces personnes, je voudrais dire à Toulouka que le peuple congolais attend beaucoup d'elle.
Oui.
Et nous voulons voir Toulouka, avec les membres de son gouvernement, se mettre directement au travail pour qu'on mette fin d'abord à la guerre qui nous met à genoux à l'Est. Merci. Parce qu'on ne peut pas parler du développement quand il n'y a pas de paix. À part ça, que ce soit la création des infrastructures, il n'y a rien. Que ce soit la création des emplois en faveur des Congolais, en l'occurrence la jeunesse, il n'y a rien. C'est-à-dire aujourd'hui, le peuple congolais souffre au moment où il y a un club d'amis qui s'accapare toutes les richesses du pays.
Merci Ignace Mpira. Comment Mme Toluka devrait-elle faire pour relever tous ces défis qui l'attendent?
Oui, mais elle doit faire son travail. Je crois qu'elle connaît son travail. Elle ne tombe pas de nulle part. Elle a été ministre du Plan. Le ministère du Plan, dans tout le gouvernement, c'est un ministère non seulement régalien, mais un ministère qui a de la préséance. Parce que tous les autres ministères travaillent dans la planification faite par le gouvernement, pilotée par le ministre du Plan. Donc nous n'avons pas affaire à un néophyte, une nouvelle venue. Elle a vu d'autres premiers ministres fonctionner, réussir ou échouer, et donc elle sait où elle doit mettre le pied. Elle doit mettre les ministres au travail. Je voudrais évoquer une anecdote. Lorsque ma tata Pogno venait de commencer, il y a un ministre proche de nous à qui j'ai rendu visite à Kinshasa qui est revenu au bureau de son ministère à 8h30 me disant on nous a fermé la porte au nez. Le premier ministre dit qu'un ministre qui arrive avec un retard de 15 minutes rentre, il ne participe pas au conseil des ministres. On n'a pas révoqué ma tata Pogno pour ça. Et donc c'est à elle d'imprimer une discipline de gouvernance à son gouvernement. Et le président de la République ne viendra pas le lui reprocher. Si elle demande au ministre de venir au bureau à l'heure, si elle demande au ministre de traiter les dossiers, de les présenter à temps, c'est tout pour c'est pour la réussite du mandat du président de la République. C'est pour la réussite du peuple congolais. Et donc, elle part avec les faveurs des pronostics. Hein, je crois que personne ne peut dire, comme disent nous les Bayoua et Abouka vont dire, elle va échouer. Non, on ne dit pas ça. Elle part avec les faveurs des pronostics. Elle a une nouvelle équipe. C'est à elle de devenir véritablement une grande dame, une dame de fer, pourquoi pas, qui dit non à certaines injonctions, pourquoi pas. C'est pour ça que toutes les femmes ont été contentes hein, de voir qu'on a responsabilisé également une femme. C'est pour qu'elle travaille. Et donc, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle a avec elle une équipe de personnalités qu'on lui a proposée. Et elle-même a marqué son accord avec le président de la République. Et donc, ces gens-là, ce sont des Congolais comme nous. Ils peuvent faire du bon travail. Donc, ils partent avec les faveurs de pronostic. Ils doivent prendre cette chance-là pour qu'elle marque l'histoire de ce pays.
Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Tipson Idumbo, monsieur le ministre provincial, qui a accepté de participer à cette émission. Merci à Amos Bissimo, qui était aussi avec nous dans cette émission. Et monsieur Ignace Mopira, qui a été, n'est-ce pas, l'analyste politique dans cette émission. Merci également à Radio Kapi Bukavu, Jean Kassami, Emmanuel Kanagaro, Alain Likota, Radio Kapi Kinshasa, Dona Madimba, Jonathan Fouanani, Diedone Nyangasa. Merci aussi à Virginie Kassami. Merci une fois de plus et bon suivi de programme sur Radio Kapi. À la présentation, Guy Maté.